Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
11h-12h, c'est le moment de notre débat. Vous savez, chaque jour, un débat avec des invités concernés par le sujet du débat. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour apporter des commentaires, mais avant tout pour expliquer et analyser la situation. Alors, le débat aujourd'hui porte sur les religions. Pourquoi est-ce que j'ai voulu ce débat aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que nous sommes en plein carême. Le carême se termine jeudi saint. Nous sommes en plein ramadan. Le ramadan se termine bientôt, le 21 avril. Et puis, l'INSEE a sorti une analyse très intéressante sur la religion. En France, 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion. Et je me posais la question, et c'est la question que nous allons poser, et nous allons débattre de ce sujet. Est-ce que les religions sont décrédibilisées en partie en France en ce moment et de plus en plus? Pourquoi? Est-ce que croire est désormais mal vu? Est-ce que la liberté religieuse est menacée en Europe? La liberté religieuse, qui est un droit fondamental, devient-elle un droit non essentiel? On en parle ce matin, c'est un vrai débat sur l'antenne de Sud Radio. Je trouve ça très très intéressant parce que j'ai été frappé quand même, mais je vais voir ce qu'en pensent tous mes invités. J'ai été frappé par ce chiffre, 51% des Français qui déclarent ne pas avoir de religion. Alors, pour parler de tout cela, Jean-Louis Adenor, qui est journaliste à Marianne, spécialiste des questions de religion. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise.
Bonjour.
Bonjour. Et puis Tariq Ildiz, qui est sociologue et essayiste, auteur de La fatigue d'être soi ou prêt à croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste aux éditions du Puy de Roule. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les trois. Est-ce que vous avez été surpris par ce chiffre et que veut-il dire selon vous? 51% des Français déclarent ne pas avoir de religion. Qui veut commencer?
Allez, Jean-Louis Adenor. Surpris pas vraiment, c'est une tendance plutôt constante hein, depuis plusieurs années. On a ce chiffre qui témoigne d'une baisse du fait de se déclarer d'une religion.
Oui.
Puis la question est quand même assez large.
Oui.
Ça ne dit pas vraiment, est-ce qu'on a encore une spiritualité, en quoi est-ce qu'on croit? Il est question de ne pas se déclarer d'une religion revendiquée.
D'une religion.
On pourra voir, je pense, ce matin, que c'est un peu plus compliqué que ça.
Que bon. Alors, Aurélien Taché, vous êtes d'accord et
je suis d'accord avec ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire que c'est pas très très surprenant. Hein, vous avez quand même une sécularisation à l'œuvre dans la société française depuis maintenant des décennies et peut-être même des siècles. En revanche, je pense aussi que ça ne veut pas dire que la société n'est pas dans un besoin de spiritualité. Et la spiritualité peut être diverse. En ce moment, on parle beaucoup du sacré. Moi, je crois assez à ça. Je pense que la société a besoin de plus de sacré, mais il peut se traduire par la foi, par autre chose. Et je ne pense pas qu'on peut résumer la sécularisation au fait que finalement la société française serait devenue purement, je ne sais pas moi, matérialiste, enfin qu'elle n'aurait pas de questionnement sur finalement des questionnements d'ordre spirituel. Voilà.
Oui, mais on est là pour se poser des questions, pour chercher des explications. Votre point de vue, Tariq Ildiz.
C'est ça. C'est-à-dire qu'on constate vraiment une forme de désinstitutionnalisation du religieux. C'est-à-dire qu'il y a encore de la spiritualité, il y a une forme de bricolage des croyances, mais on a un peu plus de difficultés à se dire, par exemple, je suis chrétien, je suis comme ci, je suis comme ça, dans une partie de la société.
Alors, pour commencer notre réflexion commune, on va poser la question, mais pourquoi? Moi, j'ai des questions à vous poser. Est-ce que l'opinion publique assimile de plus en plus la religion, je ne sais pas moi, au fondamentalisme, puisqu'on parle de la religion musulmane, aux abus sexuels dans l'Église catholique, aux abus sexuels aussi dans l'Église même bouddhiste? Est-ce que l'opinion publique est de plus en plus, prend de plus en plus ses distances à cause de ces excès?
Bah, clairement, en fait, il y a deux phénomènes parallèles et en même temps un peu contradictoires. Il y a le côté, il y a des gens qui vont aller dans une forme de radicalité religieuse, c'est vrai, ça existe aussi. Et de l'autre, on a ce côté où on dit, bon, chacun peut faire ce qu'il veut, mais je m'éloigne quand même du religieux, de l'institution, de ce genre de choses. On a vraiment les deux phénomènes côte à côte. Voilà.
Oui.
Je crois aussi que le fait de se revendiquer d'une religion devient plus difficile pour les générations actuelles qui sont habituées un peu à faire leur marché dans les questions spirituelles. Je pense que ça, on le voit très bien avec tout ce qui va être de l'ordre de la spiritualité dite New Age, c'est-à-dire ces différentes croyances qui sont pas forcément très structurées, mais qui vont permettre quand même d'avoir un certain rapport avec la transcendance. Se revendiquer aujourd'hui catholique, c'est effectivement de voir à un moment s'intéresser et répondre des questions des abus sexuels dans l'Église, c'est vrai. Et on sait ce que c'est que de se revendiquer enfin de se dire musulman. On peut aussi se retrouver confronté à ces questions sur les questions terroristes notamment. Et vous l'avez signalé, le bouddhisme non plus n'est pas exempt lui-même. Effectivement, disons que ça correspond un peu avec notre époque, c'est-à-dire des sociétés qui sont néolibérales, qui permettent à chacun de s'affirmer en tant qu'individu, de chercher à faire son propre petit bricolage. Vous le disiez très bien, spirituel.
Mais est-ce que vous pensez, vous ça y est, je vous ai entendu parler de libéralisme, et vous pensez que c'est lié, vous pensez que cette désaffection est liée au libéralisme?
Je pense que la déconstruction, en tout cas, des trois grands monothéismes est certainement liée, au triomphe du néolibéralisme, et qu'il n'a pas laissé de vide derrière lui. Il a laissé d'autres croyances, notamment New Age, je le disais tout à l'heure, prendre de la place.
Oui. Les religions sont décrédibilisées.
En tout cas, vous avez pointé clairement des éléments très négatifs qui sont liés, au fait qu'il y a aussi une difficulté dans les religions à avoir une propre autocritique, à avoir un certain nombre de choses qui permettraient de finalement peut-être moins dégoûter les gens, entre guillemets. On voit bien le temps que ça a pris sur les questions. La commission Sauvé, c'était il y a 2 ans, sur les abus sexuels dans l'Église. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas... Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Sur les questions de radicalité religieuse, notamment liées au djihadisme, là aussi, tout le monde n'est pas exempt de reproches. Et puis, je crois que vous avez quelque chose aussi qui est de l'ordre de... En fait, ce que je dis n'engage que moi, mais pour l'ancienne génération, vous avez quelque chose qui était vraiment de l'ordre de la foi, de la spiritualité et autres. Ce qu'on entend, et dans lequel je suis d'accord, il y a vraiment aujourd'hui plus une espèce de bricolage, chacun prend ce qu'il veut finalement, ça accompagne d'un autre phénomène à mon avis, c'est que vous avez aujourd'hui des mouvements, enfin des phénomènes un peu identitaires. On croit plus pour revendiquer une appartenance, pour être dans un groupe, pour les jeunes, ça peut être ça. Et donc ça pose d'autres questionnements qui n'ont pas grand-chose à voir avec la foi en fait. Ça pose d'autres questionnements liés à du vide. Et ça peut se retrouver partout. Vous avez du côté d'une certaine frange du monde politique des gens qui aujourd'hui essayent d'associer le catholicisme à l'identité française, si vous voulez. Ce serait plus identitaire, ce serait on est catholique. Je pense à des gens comme M. Zemmour ou d'autres. Et vous avez aussi chez les jeunes musulmans des gens qui sont pas très qui vont pas à la mosquée tous les vendredis, je pense, et qui pourtant se revendiquent parce que voilà. Donc évidemment tout ça, on mélange beaucoup de choses, et finalement là-dedans la vraie spiritualité, est-ce qu'elle est vraiment encore, est-ce que c'est l'élément principal?
Oui, et ça pose de multiples questions. Le prosélytisme, la liberté religieuse, est-ce que la liberté d'observer la foi est menacée ou pas? Beaucoup de questions.
Alors on a sur ces questions-là des questions très intéressantes, parce qu'on voit que les jeunes générations sont plus dans une logique dite anglo-saxonne, ou ce qu'on comprend du côté anglo-saxon. C'est-à-dire chacun peut faire ce qu'il veut. Ça choque beaucoup moins d'avoir des signes ostentatoires, religieux, vrai, etc. Oui. Chez les jeunes. Et c'est documenté par plusieurs études, aussi des sondages, qu'on prend avec des pincettes.
Les jeunes professeurs également, d'ailleurs. Signalons-le.
Tout à fait. Donc ça, on a ce côté-là. Chacun peut faire ce qu'il veut, etc. Et en même temps,
chez les jeunes, on accepte les signes religieux.
Mais exactement, on les accepte, et ça pose pas de problème. Au contraire,
pose pas de problème.
On considère que quand on revendique une forme de laïcité, c'est un danger. C'est un danger pour la liberté. On le voit partout. On le voit dans les études qui concernent plus les jeunes.
Alors, quand on dit jeunes, ça veut dire quoi? Que les jeunes ne comprennent pas la laïcité?
En tout cas, qu'ils n'ont pas la même définition qu'un certain nombre de personnes.
Oui, ou alors qu'il peut y avoir aussi des débats sur la laïcité en France.
Oui, on va pas ouvrir le débat sur la laïcité,
C'est vrai que vous avez une conception, vous avez plutôt deux traditions sur la laïcité, et notamment une tradition qui considère que le port ostentatoire de signes religieux n'est pas véritablement dans la tradition laïque de la France, qu'il faudrait plutôt réserver ça au strictement intime, et puis une tradition plus libérale, donc moi je m'inscris, j'ai aucun problème à le dire, où effectivement la liberté de conscience peut aussi s'exprimer par des signes extérieurs, tant que c'est pas dans le service public, tant que c'est pas à l'école, tant que c'est pas... Voilà. Et vous avez ce débat en France qui est vif, on le sait, et qui peut effectivement correspondre à un schisme générationnel aussi.
Oui, débat. Il y a débat sur le port des signes religieux, mais débat sur l'abattage rituel, mais débat sur la circoncision. Tous ces débats-là sont engagés. Et restent permanent.
À ceci près que le débat sur le port de signes religieux concerne particulièrement l'école et concerne particulièrement la façon dont les élèves vont vivre les uns par rapport aux autres, les uns avec les autres. Dans l'espace public, oui, mais à l'école, il est fort en ce qu'on a vu récemment venir des jeunes filles, par exemple, en djellaba, et on sait que ça a été un problème dans certains lycées, je pense au lycée Joliot-Curie, si je ne dis pas de bêtises, à Nanterre, où il y a eu effectivement des mouvements, disons, des mouvements de protestation, des étudiants, des élèves, pardon, qui à la fois prenaient, je crois, défense pour un de leurs professeurs qui était muté, mais qui aussi revendiquaient eux-mêmes le port de la djellaba comme étant un vêtement non religieux qui aurait été interdit par l'établissement. Donc c'est quelque chose qui va concerner ce qu'on appelle parfois un peu facilement le vivre ensemble de façon très directe, puisqu'on va avoir ces élèves qui vont se retrouver eux-mêmes confrontés à ce genre de débat et ne pas hésiter à prendre la parole à ce sujet-là. Ils vont eux-mêmes en parler, ce qui est assez intéressant. On le voit dans le sondage d'ailleurs, on voit que ceux qui parlent le plus de religion, ce sont les plus jeunes générations. C'est intéressant de voir que ça les concerne directement.
C'est intéressant parce que les plus jeunes générations, comme vous le disiez, sont portent, je parle chez les musulmans par exemple, portent plus facilement le voile que les anciennes générations, mais parallèlement à ça, sont peut-être plus tolérants, les jeunes générations sont plus tolérantes vis-à-vis des... Non, vous n'êtes pas tout à fait...
Je finis ce que j'ai conclu
de ce que j'ai lu sur l'enquête de l'INSEE, notamment, les jeunes générations qui portent, c'est vrai, chez les musulmans de plus les jeunes filles, plus le voile que les générations précédentes, on est bien d'accord, mais qui aussi acceptent peut-être plus facilement d'autres religions. Chez les jeunes, comme vous le disiez, pour corroborer ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une forme de libéralisme. Chacun peut croire en ce qu'il veut et ça ne nous choque pas.
C'est ça, c'est-à-dire que ce retour du religieux dans une partie de la population est accompagné d'un discours que je qualifierais de relativiste. Chacun fait ce qu'il veut tant que ça me dérange pas, tant que c'est pas un souci. Et alors je sais pas si les gens sont plus ou moins tolérants. Faudrait rentrer dans autre chose.
C'est un autre débat.
Mais en revanche, ce discours-là existe clairement.
Le droit de l'individu l'emporte sur celui de toutes les communautés.
C'est ça, et je trouve que la réflexion autour du libéralisme est très intéressante, et de l'identité, en effet. C'est-à-dire qu'on est sorti de la société du destin social, j'étais fils de cordonnier, je devenais cordonnier, pour être dans une société de la liberté individuelle. Je fais mes propres choix partout, tout le temps. Et ça s'accompagne parfois par une sorte de vide un peu identitaire, c'est vrai. Et dans ce contexte-là, le religieux, ce que moi j'ai appelé le prêtre à croire, mais je l'ai repris de Daniel Hervieux-Léger, c'est une réponse à toutes les questions qu'on peut se poser existentielles. Et c'est pour ça que ça peut être aussi un système très globalisant.
Alors, on va poursuivre. Je suis obligé d'observer une petite page de pub. On va poursuivre. Il est 11h16. À tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, il est 11h19, merci d'être avec nous. Jean-Louis Adenor est journaliste à Marianne, spécialiste des questions de religion, Tariq Ildiz, sociologue et essayiste, auteur de La fatigue d'être soi ou prêt à croire, lutter contre la délinquance pour combattre le radicalisme islamiste, édition du Puy de Roulé, Aurélien Taché, député écologiste du Val d'Oise. Le phénomène religieux, nous en parlons ce matin. Je posais la question, est-ce que les religions sont décrédibilisées en partie, notamment chez les jeunes. Pourquoi ? Même si il y a des tendances, il y a d'un côté les jeunes qui, eux, se tournent vers la religion, notamment des jeunes filles vers la religion musulmane, mais aussi des jeunes qui se tournent vers les évangélistes ou d'autres religions. Et puis vous avez aussi beaucoup de jeunes qui veulent ignorer et repoussent toute tentative communautariste.
Absolument, c'est pour ça que je parlais de dynamique contraire. On a vraiment les deux dynamiques qui s'observent, et dans la jeunesse, dans les deux cas. On a, je donne souvent cet exemple, des jeunes qui vont poser des questions existentielles sur tout, qui vont demander par exemple, est-ce que j'ai le droit de consommer du fromage caprice des dieux? Et là, il y a un gars qui va dire non, on n'a pas le droit parce que Dieu est au pluriel. Ça peut faire sourire, mais c'est-à-dire qu'on va avoir des questions sur des micro-détails, et on va nier l'individualité. Et en parallèle, on va avoir des jeunes qui vont s'éloigner de manière drastique du côté religieux.
Mais je regardais, je vais vous donner la parole, je regardais la Cour de justice de l'Union européenne, qui évidemment est de plus en plus appelée à se prononcer sur ces questions. Je regardais, je lisais, je crois que c'est dans un article du Monde, des salariés licenciés, elle doit juger des salariés, juger le sort, parler de salariés licenciés car il ou elle portait un voile islamique. Bon, très bien, un turban sikh. Très bien. Ou hindou, évidemment. Un État accusé de restreindre le droit au prosélytisme. Un hôpital catholique s'estimant injustement condamné pour avoir licencié un médecin divorcé remarié. Un salarié hindouiste d'une société de nettoyage congédié car il refusait de travailler dans un cimetière. Ou alors une protestante poursuivie pour avoir partagé sur les réseaux sociaux des passages de la Bible jugés homophobes. Vous vous rendez compte ? Partout, ce que, ces procès se multiplient.
Ce que ça dit, ce qui est super intéressant, c'est que tout à l'heure, on disait que chez les jeunes, on est de plus en plus, chacun fait ce qu'il veut du moment que ça ne pose pas de problème. Mais en fait, nécessairement, ça pose des problèmes. C'est-à-dire que la coexistence de deux codes de conduite, de deux codes de règles, c'est-à-dire le code religieux et le code laïque, leur coexistence pose problème. Mais à un moment, où commence ma liberté et où s'arrête celle de l'autre ?
Mais il n'y a pas un pays au monde où l'on parle autant de laïcité qu'en France.
Oui, on parle autant de laïcité.
N'oubliez pas, il y a une loi particulière, une loi très française de la loi de 1905. Française.
Est-ce que pour autant, quand on dit que chacun est libre du moment que ça ne touche pas à ma liberté, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment le cas quand on se retrouve avec des affaires Mila, par exemple, des affaires Benjamin Ledic, cet influenceur assez jeune qui a dansé de façon suggestive dans une église il y a quelques mois de ça. L'idée que les religions peuvent exister parce qu'elles ne feraient de mal à personne et chacun serait libre de croire, c'est profondément contraire au fait que les religions sont d'abord et avant tout un code de conduite. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et que ce code de conduite-là, il va coexister avec d'autres règles qui seront de plus en plus contraires. Parce que les sociétés se libéralisant, on voit que par exemple la question du mariage homosexuel, la question de la présence homosexuelle dans la société, va nécessairement heurter les fondements conservateurs religieux. Des religions.
Ben évidemment. Alors, et ça heurte toutes les religions,
absolument,
d'ailleurs.
Absolument.
Un peu moins peut-être la religion protestante, mais ça heurte toutes les religions.
Non, mais alors par rapport à ce que vous avez, juste pour reprendre sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les droits de l'individu priment sur ceux des communautés. Bon, moi je trouve que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. On est toujours en train de nous parler finalement d'un enfermement communautaire par rapport aux religions. Le fait que les jeunes, les individus soient plutôt dans une démarche libérale au sens politique, quoi, hein, au sens individuellement, je ne me laisse pas, je revendique peut-être
au sens sociétal.
Voilà, je revendique peut-être à un moment pour moi quelque chose, mais je ne demande pas des droits spécifiques pour une communauté. Ça me semble quand même extrêmement important. Et si j'entends tout à fait ce que vient de dire Jean-Louis Adenauer sur les droits, quand les droits sont revendiqués pour les communautés, c'est là qu'en général le discours d'intolérance face au blasphème, face aux cas qui ont été, aux exemples qui ont été donnés, peut surgir. Donc, il faut évidemment combattre ça. Mais à l'inverse, ce que vous disiez sur les décisions de justice européenne démontre que si on doit être intraitable en France, parce que c'est notre tradition, parce que c'est la laïcité sur le droit à blasphémer ou la possibilité de blasphémer, on doit l'être tout autant sur tous les types de discrimination. Et quand vous avez effectivement aujourd'hui quelque chose dans la société française où finalement on considère un petit peu que, contrairement à l'ensemble du droit européen, quelqu'un qui viendrait dans une entreprise, à condition évidemment que l'entreprise ne soit pas dans le service public ou autre, avec un signe religieux, ce serait plutôt à lui de retirer son signe religieux. Bah non, la personne est discriminée en réalité. Et donc il faut être intraitable sur les deux plans. Et moi je pense que ça peut conduire à des difficultés de cohabitation, mais que c'est pas inéluctable. Tout dépend encore une fois de l'équilibre qu'on trouve. Il faut que chacun puisse, foi ou pas foi, religion ou pas religion, se sentir totalement libre dans cette société et non discriminé. Moi, c'est ça mon combat depuis toujours.
Bien, on va revenir sur ces combats-là. Je voudrais, tiens, vous raconter au Canada. J'ai lu ça encore en travaillant le sujet. Au Canada, un enfant sikh peut venir à l'école avec son couteau rituel.
Oui, tout à fait, oui.
Par exemple, imaginez en France.
Oui, non, mais là, je
impossible.
Trouve que, effectivement, on a notre loi de 2005 et de 2004 est très bien pour ça.
C'est bien de vous le redire.
J'ai jamais été contre cette loi, il n'y a pas de problème.
Ah bon,
je suis contre les extensions potentielles qu'on veut toujours en faire, parce que vous avez toujours maintenant dans les différents partis politiques des gens qui veulent aller plus loin. Rappelez-vous la dernière présidentielle, Madame Le Pen voulait interdire le voile dans l'espace public. Ça, pour moi, c'est purement intolérant et purement discriminant. Alors qu'en revanche, à l'école, on peut considérer effectivement l'école républicaine en France,
interdiction du voile,
c'est un sanctuaire. Il y a pas de
difficulté. C'est normal, oui.
Vous voyez, même vous, Monsieur Taché, vous êtes vraiment imprégné de cette tradition politique. Tout à l'heure, vous avez très bien résumé le fait qu'il y a deux traditions autour de la laïcité. En disant, moi, je suis plutôt de la tendance libérale. Oui. Mais en fait, en disant ça, vous êtes un peu aussi de l'autre côté. Je trouve ça très bien, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, on n'a pas la même tradition politique que les Anglo-Saxons, que les États-Unis.
Oui,
aux États-Unis,
il y a
une séparation de l'Église et de l'État. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on l'a mise en place? C'était pour d'abord protéger les citoyens de l'État. Et en France, c'est l'inverse. On a voulu protéger l'État des citoyens, des communautés religieuses, je veux dire. Voilà.
Oui.
Et donc, on le voit partout. Et on a peur des signes religieux, à mon avis, plutôt à juste titre. C'est-à-dire que je préfère que ce soit plutôt dans la sphère privée à titre personnel. Mais on comprend beaucoup de choses quand on a cette histoire en tête.
Oui. Prenons deux exemples. On va... Bon, il est 11h26. Vous savez ce qu'on va faire? On va prendre nos exemples juste après la pub. À tout de suite.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, je voulais prendre deux exemples. L'interdiction de l'abattage rituel, qui revient régulièrement, ça revient à chaque élection, parce que, par exemple, le Rassemblement National demande cette interdiction, mais le Rassemblement National n'est pas seul à demander cette interdiction. Attention, toutes les associations défendant les animaux demandent l'interdiction de l'abattage rituel et demandent un étourdissement avant l'abattage. Hein. Et les religions, notamment la religion juive et la religion musulmane, se battent contre cette interdiction. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les États pouvaient l'interdire. C'est ce que disent les musulmans ou les juifs, disent attention, c'est notre liberté qui est en jeu. Notre liberté religieuse qui est en jeu. Vous pensez qu'elle est en jeu sur cet exemple,
moi,
par
très
exemple,
très sincèrement,
sur la circoncision.
Ouais, non, j'ai beaucoup de mal à considérer que les libertés religieuses soient en danger aujourd'hui en France.
Ah bon?
Et en Europe. J'ai plutôt l'impression qu'on voit de plus en plus des politiques, notamment européennes, être plutôt accueillantes et plutôt prendre en considération le fait religieux de façon de plus en plus élargie. Mais... Alors, cette question de l'abattage rituel, j'avais pas la décision de la Cour, donc je suis surpris de l'apprendre.
Oui.
Mais il suffit de regarder la façon dont la question du blasphème est traitée, notamment la façon dont on évite de traiter ces questions-là. Je le répète, l'exemple de tout à l'heure sur les deux jeunes qui ont blasphémé et qui ont été harcelés par la suite. C'est compliqué dans l'opinion publique de trouver un soutien de ces personnes-là. Ou alors chez des gens qui sont des laïcs convaincus, qui sont des gens, des militants athées ou des militants laïcs qui vont pouvoir défendre plus facilement. Mais dans la population générale, on est plus sur une indifférence, une gêne, ou alors complètement un désaveu, une désapprobation.
Mmh. Oui, mais je reviens. Pourquoi est-ce que j'insiste sur l'abattage rituel? Parce que c'est pour ces religions, la religion musulmane et la religion juive, c'est quelque chose de fort. C'est un rite, même plus qu'un rythme. Un rite, c'est vraiment ancré dans leur pratique religieuse. Et elles disent, c'est vrai que c'est de plus en plus contesté, mais vous l'entendez partout, vous voyez non, partout.
C'est sûr.
Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue?
Non, mais c'est vrai que ça, c'est un débat vraiment... ça fait partie des questions assez épineuses, parce que pour le coup, là, en plus, on est plus dans de la revendication liée à des communautés. En même temps, on peut pas faire comme si on ne voyait pas que ça touchait des religions dont les individus sont aussi ceux qui peuvent souffrir de discrimination et qui peuvent avoir l'impression à tort ou à raison. Moi, j'ai tendance à penser plutôt à raison, parfois peut-être à tort, qu'il y a un discours un petit peu de stigmatisation ou de rejet de leur propre religion. Et ça nourrit des replis aussi identitaires. Donc c'est le serpent qui se mord la queue finalement. Sur cette question de l'abattage rituel, évidemment, moi je suis un défenseur des droits des animaux. Je considère que l'étourdissement, ça serait certainement mieux. En même temps, est-ce que c'est vraiment à moi, je ne suis pas juif, je ne suis pas musulman, de pouvoir dire quoi que ce soit sur les questions de culte? Donc ce qui serait bien, c'est que ce soit dans les religions elles-mêmes et dans le culte, mais ça c'est toujours un peu des injonctions qui sont un peu pieuses, que des débats aient lieu et que les choses évoluent. Et moi je ne suis pas certain que la jeune génération, qu'elle soit musulmane ou juive, peut-être que demain elle expliquera que finalement l'abattage rituel n'est plus indispensable.
Ça c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, les responsables de ces religions disent si on touche à ça, bah c'est la liberté d'observer la foi qui est menacée.
Oui, mais il y a dans ce débat, il y a deux camps, entre guillemets, qui font de la politique en réalité. C'est-à-dire que quand le RN fait ça, il fait de la politique, simplement.
Mais il n'est pas seul, le RN.
Oui, bien sûr, mais je prends le RN parce que c'est l'exemple le plus flagrant.
Parce que
sûr,
les défenseurs des animaux sont sur le même terrain.
Très bien, mais ils font aussi
de la politique. Ils sont toujours RN, d'ailleurs.
Ils sont toujours adhérents du RN.
Ils font aussi de la politique, peut-être de façon un peu plus vertueuse, mais c'est aussi de la politique. Et les responsables du culte, dans le même sens, font de la politique en défendant une vision plutôt, disons, figée ou conservatrice du dogme religieux. Ils font de la religion. Qui est-ce qui ne fait pas eux? Ils font de la politique. Qu'est-ce qui ne fait pas de politique là-dedans? Ceux qui ne font pas de politique là-dedans, c'est les croyants. C'est-à-dire que chacun décide, en son âme et conscience, de manger un animal, ou en tout cas les produits d'un animal, qui n'a pas été étourdi avant d'être tué. Je pense que ça, c'est en son fort intérieur à chacun. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, si les pouvoirs publics, si la République doit prendre une décision là-dessus, moi je pense que c'est aussi à elle de se prononcer parce que c'est de l'alimentaire.
Des pays se sont prononcés. Deux pays ont interdit.
Eh ben, c'est bien là qu'on voit la zone de conflictualité. C'est bien là qu'on voit qu'une règle est édictée de façon générale pour tous et que des cultes vont demander des droits particuliers. C'est ça, oui, la réalité.
Alors, qu'il y ait un débat, ça me choque absolument pas. Mais en revanche, moi aussi, je pense qu'il ne faut pas demander au culte de changer quoi que ce soit, en fait. Il ne faut pas avoir de discussion, à mon avis, avec les cultes sur des questions précises de société. C'est une question de société. Quelle place est-ce qu'on veut accorder aux animaux ? Est-ce que nous, on considère que c'est de la souffrance animale ? Oui, non.
Il ne faut pas faire attention aux remarques des cultes.
Si on considère que c'est
grave... On ne doit pas les prendre en compte.
Si on considère que c'est grave en tant que société, on doit les prendre en compte comme citoyen, comme n'importe quel autre citoyen. Si collectivement on considère que c'est grave, on dit que c'est plus permis. Si jamais demain il y a un individu qui passe au feu rouge et qui me dit dans ma religion j'ai le droit de passer au feu rouge, je lui dis pas qu'il a le droit. Oui. Non, je dis en fait on n'a pas le droit parce qu'on a pris cette décision collective. Et je pense qu'on doit rester sur du collectif pour prendre ces décisions là. J'ai pas d'avis tranché sur la question, mais enfin c'est une décision qui doit être prise collectivement.
Oui. Et la circoncision, même chose. Violation de l'intégrité physique de l'enfant. Il y a eu des procès, la Cour de justice a été obligée de se prononcer.
La circoncision, mais je pense à plus juste titre encore que l'abattage rituel, c'est une violence qui est faite à un enfant. Alors elle est faite pour des raisons qui sont des raisons expliquées, qui sont culturelles, qui sont religieuses, qui sont bien digérées par la cellule familiale, mais ça reste une violence. Je veux dire, si on peut avoir un discours critique du fait de faire porter le voile à des jeunes filles, comment ne pas avoir un discours critique de la circoncision.
Oui, oui. Après, pour vous, de la même façon. Donc,
bien sûr.
Qui doit décider pourquoi ? Pour interdire ou pas. Qui doit décider, le pouvoir politique ?
Moi, je trouve que quand même, le pouvoir politique qui déciderait une loi qui interdit la circoncision, il irait un petit peu loin quand même c'est vrai, enfin, je veux dire, ça pose une question qui est plus large, qui n'est pas facile, mais ça pose la question, effectivement, finalement, ce qui peut relever de l'éducation familiale et de ce qui doit relever, finalement, des décisions et des lois prises par l'État. Et c'est vrai que, si on pousse les choses, quand un enfant se fait baptiser par ses parents, il n'a pas vraiment le choix, finalement.
Quand il se fait baptiser par ses parents, on lui découpe pas une partie de son corps.
Je vais aller au bout. Pour moi, l'État doit intervenir. L'excision, c'est purement une barbarie pour le coup.
Oui, mais on interdit l'excision, mais on permet la circoncision.
C'est pas tout à fait de la même nature quand même. Mais bon. Et simplement pour dire, moi, l'État doit intervenir et ingérer de manière, c'est sa mission dans l'éducation familiale quand elle porte atteinte aux droits de l'enfant, quand elle porte atteinte finalement à sa santé, à sa sécurité. Pour ce qui est purement du choix familial, des valeurs qui sont transmises, religieuses ou pas, ou autres, c'est quand même assez compliqué d'aller trop loin dans un État qui ingère, à mon avis, de cette manière. Je le pense, voilà.
Bien. Muriel est avec nous à Béziers. Bonjour Muriel.
Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour à tous.
Alors Muriel, vous êtes catholique Muriel?
J'ai été baptisée, puisque mon papa était italien, donc la religion, mais nous n'étions pas des pratiquants, hein, c'est-à-dire qu'on allait au mariage, aux enterrements, mais nous ne pratiquions pas tout le temps, tous les dimanches, aller à la messe. Et j'ai continué, parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, alors je crois en Dieu, pourquoi ? Parce que il y a une force au-dessus de nous qui s'explique c'est ce que je m'explique moi, et si j'ai à parler au bon Dieu, si j'ai à m'adresser à lui, je m'adresse directement de chez moi, j'ai pas besoin de passer par un confessionnal, j'ai pas besoin de ce face de
par une hiérarchie. Vous n'avez pas besoin de passer par une hiérarchie.
Non, pas du tout. Oui. S'il existe ne pas le solliciter pour de l'argent, pour des choses comme ça, on prie pour quelqu'un, pour sa santé, mais après moi je le fais moi-même, je suis grande, j'ai pas besoin qu'on m'indique, d'envoyer des enfants avec tout ce qui se passe, et puis j'entendais, et pour les musulmans, on égorge les animaux, et pour ceux-ci, pour les juifs, la circoncision, non, je suis désolée, une religion, elle est personnelle, elle doit pas être édictée par des gens qui l'ont écrite ou dite il y a des centaines d'années, des milliers même, plus d'années.
Oui, je comprends. Par une hiérarchie qui applique aveuglément des dogmes. C'est ce que vous voulez dire. Voilà. Bien, merci Muriel. Oui, vous rebondissez.
C'est intéressant ce type de croyance qui, je pense, est quand même très très répandu. Je ne sais pas ce que mes amis ici vont en penser, mais on est sur un déisme en fait d'inspiration catholique. Mmh. C'est-à-dire que la religion catholique, je connais, enfin, je vais pas rester le credo ici, mais il s'agit de croire en la Sainte Église romaine dans le credo catholique. Donc, on est censé quand même aller à la messe, et cette verticalité, elle est prévue par le culte. La vérité, c'est que beaucoup de gens pratiquent comme ça, et c'est tout à leur honneur. Je critique pas du tout ce que dit Muriel, au contraire, mais beaucoup de gens pratiquent comme ça. C'est-à-dire ont un bassin culturel, voilà, là en l'occurrence italien, catholique, et
mais
vont avoir cette
religion. Peut-être un besoin aussi.
Voilà, mais bien sûr, mais je pense que c'est une fonction du cerveau humain que de vouloir croire. Je pense que l'être humain a besoin de croire. Cette pratique-là, c'est la pratique la moins, disons, qui vous met le moins en défaut par rapport à vos valeurs. Quand il y a des problèmes de pédophilie, par exemple, c'est dur d'aller à l'église. Je peux le comprendre.
Bien sûr.
Oui, c'est amusant parce que tout au long du XXe siècle, on a dit la modernité va éluder la religion.
Oui.
Et Max Weber a parlé de désenchantement du monde, etc.
Et finalement,
qu'est-ce qu'on constate, c'est que ça n'a pas du tout éludé la religion, mais ça l'a transformé. On a ce rapport beaucoup plus individuel qu'on vient d'entendre.
Mmh. André Malraux lui dit que le 21e serait celui du religieux. Donc
vous le pensez,
est-ce qu'il est celui du religieux?
Écoutez, je pense quand on bah, je sais pas si. Oui, pour moi, oui. Pour moi, clairement,
Mais
moi, c'est mon objet de travail, donc forcément, je passe beaucoup mon temps là-dedans. Entre l'augmentation des néo-spiritualités, les dérives sectaires, le 21e siècle qui s'ouvre sur un conflit.
La spiritualité au sens large.
Bien sûr. Alors, il est spirituel, disons-le comme ça, peut-être.
Il est spirituel. Et pour reprendre sur le débat précédent, je suis tout à fait d'accord, c'est une forme de déisme. Mais même pour aller peut-être dans le sens de Jean-Louis Adenauer, je pense que c'est une forme d'anticléricalisme et que c'est finalement souvent ça le débat en France. On confond souvent le débat sur les religions et le cléricalisme. Moi, encore une fois, je le redis, sur toutes les formes de spiritualité, de religion, à partir du moment où on est dans une forme de tolérance, je n'ai aucun problème. Le cléricalisme peut conduire, et le combat historique de la gauche en France a été contre le cléricalisme et pas contre les religions, en tout cas, moi, c'est plutôt comme ça que je le perçois. Et là, on voit à travers ce témoignage que les gens, en fait, ne veulent plus être comptables de ce que disent les prêtres, mais peuvent croire de leur côté.
Évidemment, on a d'un côté un besoin de spiritualité qui est évident, et puis de l'autre côté, on a un besoin de matérialité, qui est évident et qui s'exprime aussi, notamment chez les jeunes, qui sont terriblement partagés sur ces questions-là. On va en parler juste après dernière pause.
Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin.
Bien, il est 11h45, midi moins le quart, nous terminons notre débat. Nous parlions de ce besoin de spiritualité qui existe dans notre société, un peu perdu parfois. Et les religions ne canalisent pas toujours ce besoin de spiritualité, quelles que soient les grandes religions. Bon, même s'il y a des religions qui sont en progression. Je pense aux évangélistes, par exemple. D'ailleurs, pourquoi le succès des évangélistes? Tiens, vous connaissez...
Je peux vous proposer des pistes de réponse si vous voulez. Le rapport le rapport à la foi, ce qu'on appelle parfois les charismes de l'esprit, enfin toute cette partie très vibrante de la spiritualité est beaucoup plus fort chez les évangéliques. C'est un rapport à la transcendance, il y a une affaire de quasiment ésotérique dans le rapport à Dieu
qui est collectif
absolument,
qui s'exprime dans la pratique du culte,
et dans l'émotion.
Exactement, dans l'émotion, et dans, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que c'est quelque chose qui peut contraster par rapport un peu au côté un peu plan-plan de l'Église catholique romaine dans son rituel. Exactement.
Rituel.
D'ailleurs, on a ce courant catholique qui s'appelle le renouveau charismatique, qui est un courant qui a pour objectif de s'inspirer de ce que font cette frange évangélique et protestante américaine pour réussir à revivifier l'Église. Et donc, dans ces cas-là.
D'ailleurs, les musulmans sont confrontés au même problème que les catholiques.
À savoir?
Justement, ce rituel qui finalement pèse.
Oui.
Hein, qui pèse sur la pratique de la religion.
Oui, c'est-à-dire que on a ces mouvements qui viennent plutôt de la base, qui vont vers davantage d'émotion, vers davantage de force, de discipline qui est dégagée par le religieux.
Oui.
Là où le côté institutionnel avait plus tendance à faire des compromis avec la société, avec tout un tas de règles, cette frange-là, que ce soit avec les évangélistes ou les plus radicaux chez les musulmans, on a ce côté intransigeant qui paradoxalement plaît beaucoup. Aussi.
À une partie.
Voilà. Oui. Parce que il y a ce sentiment de puissance, de dire j'assume ce que je suis, j'assume mon idéologie.
Il y a même des jeunes catholiques qui prennent en exemple les musulmans.
Absolument.
Font les musulmans, ce que nous ne faisons pas dans notre religion.
Absolument. En tant que journaliste qui travaille là-dessus, ça m'arrive de voir ça à deux reprises particulièrement. On a vu, il n'y a pas longtemps, une espèce de tendance au retour du voile chez les jeunes chrétiennes. C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas observé depuis très longtemps, et on le voyait comme une façon d'afficher son christianisme, son catholicisme, voilà, oui. Comme une façon aussi de d'honorer un genre de pudeur religieuse oui. qui est là pour le coup clairement inspirée de ce qu'on demande aux femmes dans la religion musulmane. Et on le voit aussi, et je suis désolé de revenir là-dessus, c'est pas une obsession du tout, mais dans les moments de blasphème public, la façon dont ces religions vont converger ensemble, on le voit, les jeunes sur Twitter et d'autres réseaux sociaux qui vont critiquer, là je crois que cette semaine il y a eu un acteur qui a dansé déguisé en Jésus-Christ, ça a fait un petit oui. scandale. Et pourquoi? Parce que, alors évidemment, les chrétiens, cette génération-là de chrétiens est beaucoup plus susceptible et beaucoup plus sensible à ça, mais parce que il se trouve que Jésus, c'est un prophète à la fois de l'islam et évidemment le prophète par essence ouais. du christianisme. Donc il y a une convergence quand même, et on le remarque dans ces moments-là où des chrétiens et des musulmans vont dire attention, on ne rigole pas avec la religion, attention, tu fais du mal à beaucoup de gens quand tu fais ça.
Et la laïcité dans tout ça?
La laïcité, pour moi, c'est justement de pouvoir à la fois avoir ce type de liberté, de moquer les religions, mais ne pas effectivement s'en prendre aux individus, ne pas s'en prendre aux croyants. C'est toujours ça qui est un petit peu difficile. Le discours doit pouvoir être très libre et très critique sur les dogmes, sur les religions elles-mêmes, mais ne jamais virer dans la discrimination ou l'attaque personnelle. Et le problème, c'est que vous avez toute une frange. Enfin, vous avez des militants anticléricaux sincères qui sont vraiment dans cette logique, j'ai aucune difficulté avec ça, mais vous avez aussi de la récupération politique, malheureusement, notamment très à droite de l'échiquier politique, pour s'en prendre aux croyants, pour s'en prendre à des gens qui finalement, en plus, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a aussi dans le fait religieux des choses qui sont liées au fait que la société française change, qu'elle est multiculturelle, qu'il y a une immigration, que des immigrés peuvent être plus attachés à leurs convictions, et ne faisons pas le jeu de ces gens-là, parce que la laïcité, c'est justement de trouver un équilibre pour que la liberté de conscience et la liberté de ne pas croire puissent cohabiter.
Oui, il y a un débat aussi sur le prosélytisme. Est-ce qu'il faut empêcher ou pas le prosélytisme?
Ah, ça serait compliqué. Par essence, la plupart des religions sont prosélytes, pas toutes.
Oui,
je vais être très mesuré là-dessus, parce que j'ai dit l'inverse, c'est pas longtemps, on me l'a reproché, donc je vais être mesuré là-dessus. Mais la plupart des religions sont prosélytes, elles ont pour objet principal de s'étendre, c'est comme ça.
Oui.
Donc l'interdire, je vois mal quand même ce serait possible dans la pratique, en réalité.
Empêcher,
En revanche, ce qui est important, et c'est ce que je dis même au niveau des dérives sectaires, parce que le problème est relativement le même, il faut réussir à s'en méfier en réalité. Il faut réussir à décrypter un discours qui serait un discours prosélyte. Il peut être prosélyte dans le sens de trouver de nouveaux fidèles, mais il peut aussi être prosélyte dans le sens de modifier la pratique de certains fidèles. C'est-à-dire que des jeunes ou des gens en général qui vont pratiquer leur religion de façon modérée, de façon tranquille, une femme musulmane qui ne se voilerait pas, par exemple, est aussi victime de prosélytisme quand elle se retrouve contrainte, plus ou moins consciemment, de se voiler parce qu'on lui explique que ça marche.
Adenor, on pense souvent, quand on parle prosélytisme, on pense souvent à la religion musulmane, parce qu'elle est au cœur de toutes les conversations. Mais elle n'est pas la seule à être prosélyte. On parlait des catholiques, mais on parlait aussi de tous les mouvements, non pas de l'Église réformée protestante,
mais
de
tous les évangéliques, bien sûr.
Les évangélistes, les baptistes, les adventistes.
Et ils le font avec un certain talent, dans le sens où ils savent repérer les territoires ou l'État. Et c'est là qu'on voit l'importance de la puissance publique, qu'on voit l'importance de la présence de la République, où l'État des territoires que l'État a abandonnés, on voit que c'est des territoires dans lesquels ils s'installent et dans lesquels ils font des actions auprès des jeunes, des mères célibataires, des familles, des personnes issues des classes populaires, et que c'est comme ça qu'on récupère en réalité de nouveaux fidèles.
Ils ont un rôle social important aussi, qu'ils jouent et qui sert leur prosélytisme.
Bien sûr, mais je pense qu'on va pas commencer à légiférer pour interdire le prosélytisme. Là, on rentrait dans une société où voilà. C'est super compliqué. Mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas respecter la loi. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un, pour prendre votre exemple, force une femme à être voilée, pour reprendre cet exemple, évidemment, c'est déjà interdit par la loi. On n'a pas besoin d'en inventer une nouvelle pour
la
dire que c'est du prosélytisme.
Oui, je pense quand même que la loi est bien faite. Et je peux tout à fait être d'accord avec le fait que vous pouvez avoir, et je suis content, je sais que je ne dis pas du tout que j'en ai d'abord dire autre chose, mais vous avez des gens qui disent aujourd'hui que c'est ces territoires qui veulent faire sécession. Pas du tout, c'est des territoires qui ont été abandonnés par l'État. C'est important de le rappeler. Et effectivement, là, vous avez un vide dans lequel se nichent beaucoup de choses. Pour le meilleur ou pour le pire. Pour le pire, parfois, quand vous avez des groupes religieux qui font du prosélytisme et qui expliquent que si tu veux jouer au foot, si tu veux faire ci, il faut que tu ailles à la mosquée ou je sais pas quoi, il faut combattre ça. Mais à l'inverse, vous avez aussi dans ces quartiers de jeunes, souvent musulmans, on va pas se mentir, mais comme vous trouviez des jeunes engagés, ou des gens engagés dans la religion catholique, par exemple, pour aider les migrants, pour faire plein de choses, qui ont un engagement social et politique qui peut être lié à leurs valeurs religieuses, et vous avez dans ces quartiers-là des jeunes qui affichent une spiritualité, mais qui font vivre vivre une vie associative de quartier qui est très positive. Donc il faut mais pas être manichéen. Ça peut être les deux.
On débat, c'est, on est en plein ramadan, il y a eu un débat sur les terrains de foot pour savoir s'il fallait arrêter les parties pour permettre effectivement la rupture du jeûne.
Bon, bah, moi, ma tolérance, je vais vous le dire, parce que moi, j'aurais trouvé que c'était pas si grave. Hein. Ça se fait en Allemagne, ça se fait en Angleterre. Bon.
Vous trouvez que c'était
après,
pas si grave?
C'était pas si grave.
La Fédération française a dit non.
Oui, je sais bien, mais enfin bon, là, je trouve qu'on est dans, on est un peu.
Non, bah, après, ça dépend. Je pense que là, on est sur des choses très, très personnelles, mais c'est vrai que tout ce qui, parce qu'il faut pas être naïf non plus. La présence du religieux, la visibilité du religieux dans l'espace public est un outil de prosélytisme. C'est le cas.
Et oui.
Montrer la religion, c'est intéresser les gens à la religion. Donc effectivement, tout dépend du modèle de société qu'on veut. Moi, je suis plutôt partisan d'un modèle
toujours dire, ce n'est pas
sécularisé.
Si grave,
voilà, je suis plutôt partisan de ce modèle-là. Donc, effectivement, je pense que la République et les corps, les institutions créées n'ont pas à reculer ou à modifier leurs règles devant des revendications qui sont de plus en plus importantes. C'est ça qui est important.
Là, vous n'êtes pas d'accord. C'est une forme de prosélytisme.
Évidemment que c'est une forme de prosélytisme, bien sûr.
Peut-être que ce n'est pas une forme de prosélytisme, mais c'est une vraie question de principe. C'est vrai que prix individuel. Individuellement, on se dit c'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que c'est une question de principe. Est-ce que c'est à l'institution de s'adapter aux joueurs ou est-ce que c'est l'inverse? Et c'est parce que je pense moi que c'est plutôt l'inverse. Que bon, je trouve que la décision est plutôt
bonne.
Pour vous, elle est cohérente.
Elle est plutôt cohérente.
Il y a une question qui se pose pas mal en ce moment et on devrait avoir un jour une réponse, j'imagine, dans le courant de l'année. C'est sur la question du voile dans l'avocature, chez les avocates.
Oui.
Les barreaux doivent se prononcer isolément. Chaque barreau décide pour sa juridiction. Il se trouve que le Conseil national des barreaux va se prononcer, il me semble, selon les infos que j'ai, bientôt, on espère, de façon à pouvoir unifier le règlement sur le territoire. Pourquoi est-ce que c'est important que ce soit unifié? Parce qu'à partir du moment où il y a une brèche qui a été ouverte, quelque part, dans un des barreaux qui serait peut-être le plus libéral, pour reprendre un terme que M. Taché a utilisé tout à l'heure, il se trouve que beaucoup d'autres seraient tentés de le faire, ou alors, on pourrait leur rétorquer, mais pourquoi est-ce que vous décidez de rester sur une règle qui est aussi stricte ici, là où là-bas, on est plus libéraux?
Vous n'êtes pas tout à fait sur le même
point
de vue.
Non, pourquoi? Mais pour monsieur, c'est ça, là, quand j'expliquais tout à l'heure de traditions qui, pour moi, sont de traditions de laïcité, mais qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que pour moi, dès que vous représentez le service public, dès que vous représentez l'État, vous devez être strictement neutre. Donc un professeur, on peut étendre jusqu'aux élèves dans le cas de l'école parce que c'est particulier, doit absolument être neutre. Aucun signe religieux ne doit être tolérable. En revanche, un avocat, c'est une profession libérale, justement. Et donc, à mon avis, un avocat ou une avocate, il fait ou elle fait ce qu'elle veut. Et ses clients viendront le voir ou ne pas le voir. Et c'est pour ça qu'on a peut-être une nuance sur le fait... La faiblesse de penser que j'ai un esprit critique suffisant pour quand je croise quelqu'un avec un signe religieux, ça n'influe pas beaucoup sur ma conviction.
Profession libérale, il se trouve qu'ils sont quand même, ils participent quand même de la justice. Je sais bien qu'ils sont pas fonctionnaires, je sais bien qu'ils sont pas magistrats. Mais il se trouve quand même qu'ils servent eux
qu'ils
aussi
la justice
et qu'ils participent.
Enfin, ils rendent pas la justice.
Ils participent à ce que la justice soit rendue, en tout cas.
Au jugement, dans
tous les cas. Des individus. Mais pour moi, une juge voilée, c'est choquant. Une avocate voilée, ça ne l'est pas. Voilà. Mais bon, c'est mon point de vue.
Et vous?
Moi, je suis plutôt défavorable parce qu'on autorise le voile pour les avocats.
Oui, pareil. Je pense que parce qu'on est quand même dans un cadre, on est quand même dans un tribunal. Et donc ce côté, ce qu'on dit pour l'espace, disons pour l'école, etc. Je pense que ça peut être aussi faisable. Mais bon.
Bien. Merci messieurs d'être venus pour réfléchir ensemble aux faits religieux. C'est très intéressant et on aurait tellement de choses à dire. Il est 11h56. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Les infos dans un instant.